Bonsoir à tous. Depuis le 1er mars, le département applique une nouvelle tarification de l'aide à domicile, ce qui n'est pas sans conséquence pour bon nombre d'usagers. Une première expérience réussie, l'Assemblée municipale Bray-sur-Aise a pris connaissance en début de semaine des projets portés et réalisés grâce au Conseil municipal des enfants. Du changement dans le stationnement dans le centre-ville de Thouars, la municipalité va revoir les règles afin d'éviter les voitures ventouses sur les places. Philippe Insberger sera-t-il le futur entraîneur des Chamois? Celui qui est bien connu au club semble en tout cas clairement intéressé. Et puis, 5 sportifs handisport vont se lancer en septembre dans 2 grands défis cyclistes. Ils seront accompagnés par plusieurs sapeurs-pompiers de Sévrien.
La météo à l'issue du journal, peut-être de l'orage sur une partie des Deux-Sèvres ce soir. La nouvelle tarification de l'aide à domicile fait bondir un certain nombre d'associations d'usagers.
Le 1er mars, le département a revu les règles avec l'objectif d'augmenter les salaires des auxiliaires, mais le reste à charge pour les familles et les personnes en situation de handicap a lui en parallèle sérieusement augmenté. Aujourd'hui, un collectif tire la sonnette d'alarme et dénonce une décision sans concertation. Bénédicte Seller est la directrice d'APF France Handicap pour les Deux-Sèvres.
Les conséquences de cette décision, c'est une mise en péril d'une vie de qualité au domicile et d'une vie au domicile tout simplement. Concrètement, il y a un reste à charge pour les personnes qui peut aller de 100 à 1000 euros par mois en plus pour faire face lorsqu'ils font appel aux services d'aide à domicile pour leur vie quotidienne, prendre une douche, l'aide à l'habillage, l'aide pour manger, prendre les repas, se coucher, se lever, etc. Cette vie quotidienne-là. Et ça, c'est pas possible s'il n'y a pas les aides à domicile indispensables pour répondre aux besoins d'une personne en situation de handicap au domicile. Sans aide, la vie à domicile n'est pas possible.
Sandra Marie, qui habite Usseau, est la maman de Grégory, un jeune homme de 25 ans atteint d'une maladie génétique et qui a besoin d'être accompagné 24 heures sur 24. Pour elle, la nouvelle tarification n'est pas sans conséquence. Elle est également au micro de D4B.
C'est 503 euros par mois. En plus, qui nous reste à charge, en fait. Donc 500 euros, c'est énorme, quoi, en fait. Avant, on avait zéro à charge. Et puis, c'est que 500 euros sur 900 euros d'une pension, c'est pas grave. Voilà, il nous reste pas grand-chose, quoi. Nous, on peut pas subvenir aux besoins de notre fils. On a une vie aussi, on a des factures, on a tout, quoi. Donc, c'est compliqué pour nous. Cette décision, c'est injuste, quoi, pour nous. Hein. Moi, le dimanche matin, j'ai 1h30 d'aide. Elles ne viennent plus parce que c'est pas possible, c'est trop cher. Ça nous fait 14 euros à charge. Donc, 1h30, ça nous fait 21 euros par dimanche. Donc, vous calculez. Et par jour férié, donc au mois de mai, il y en avait 8. Puis à côté de ça, on a la vie de tous les jours à gérer quand même. Hein. Je ne les paierai pas, les factures, de toute façon. Trop cher. Donc, non, on ne paiera pas. Tant qu'ils ne reviendront pas sur leur décision. Et puis, de toute façon, mon fils n'est pas imposable, donc n'est pas saisissable. Donc, voilà.
De son côté, le conseil départemental invite les personnes en difficulté à prendre contact avec les assistantes sociales.
C'est la fin d'une belle aventure.
Fruit d'une volonté municipale, le 1er octobre 2021, 1200 élèves de CP au CM2, des 14 écoles primaires publiques et privées de Bray-sur-Aise et les communes déléguées avaient été appelés aux urnes pour des élections comme les grands. Chaque école a ainsi élu ses conseillers, élèves de CM1, pour composer leurs 33 représentants, comme la véritable Assemblée municipale Bray-sur-Aise, 33 représentants du Conseil municipal des enfants. Regroupés en commission, environnement, sécurité, entraide, sport et loisirs, ils se sont investis pour faire émerger 11 projets présentés lundi soir en Conseil municipal. De l'achat d'un mini-golf itinérant à l'installation de bancs et tables de pique-nique, en passant par un jardin pédagogique ou encore une campagne de communication sécurité routière aux abords des écoles. Et ce ne sont là que quelques exemples. Toujours est-il qu'ils font la fierté des élus, à l'image d'Hélène Brosseau, conseillère municipale, élue référente de ce conseil municipal des enfants.
Je les ai vus évoluer aussi sur ces 2 années, parce que quand ils ont commencé, ils étaient en début de CEM1, donc aujourd'hui ils vont rentrer au collège, donc ils sont quand même grandis. Ils ont appris, je pense, j'espère, beaucoup de choses, et c'était vraiment très très chouette de les suivre. J'ai vu aussi leur évolution, parce qu'on avait des enfants très très différents, hein, des enfants très timides, des enfants aussi beaucoup plus exubérants, donc il faut canaliser ceux qui parlent un peu trop, et puis il faut essayer de trouver des petites choses à faire à ceux qui sont aussi très timides, et de les sortir un petit peu de tout ça. Donc je suis fière ce soir d'eux, parce que dans les enfants qui ont parlé ce soir, il y a des enfants, il y a 2 ans, on leur a pas du tout donné de micro, et aujourd'hui ils étaient très à l'aise, donc c'était plutôt chouette de voir un petit peu cette évolution-là, donc très très positif tout ça. Il a fallu aussi voter, c'est-à-dire qu'il y avait des idées, des fois les copains n'étaient pas d'accord pour ces idées-là. Donc là, ils ont compris un petit peu le sens aussi de la démocratie. Donc tout ça, c'est aussi la démocratie, la citoyenneté. Ils se sont fait aussi le relais dans leurs écoles de toutes leurs expériences. Donc ça, c'était quand même aussi très chouette d'avoir des retours aussi d'instituteurs de ce qui se disait aussi dans les classes. Donc ça, c'était plutôt sympa aussi. Voilà.
Le nouveau conseil municipal des enfants de Bressuire sera élu en octobre prochain, également pour une durée de 2 ans.
Pour la municipalité toircaise, un bon stationnement est un stationnement qui bouge, si l'on peut dire. En clair, un stationnement fluide.
Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi, à la mi-septembre, plusieurs périmètres vont être définis en ville. D'un côté, les parkings où le stationnement restera libre, et de l'autre, dans le centre ancien, des zones bleu clair ou bleu foncé où des restrictions vont s'appliquer car les places y sont souvent encombrées. Élément d'explication au micro-colline de notre correspondant toircé Dominique Hérault avec Bernard Noirot, élu chargé de la voirie.
Pour les habitants, ça ne change rien, puisque de toute façon, avec une vignette, ils auront le droit de stationner sur ces parkings indiqués en bleu clair. Donc vous avez la place Saint-Long, il y a la place Berton, Jeanne d'Arc, la place du 4 août, le parking Ligonier et le nouveau parking rue Juliette. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, bien sûr, eux n'ont pas la vignette et donc seront en stationnement en zone bleue stricte, c'est-à-dire limitée à 2 heures. De 9h à midi, de 14h à 19h, du lundi au samedi. Le dimanche, il n'y a pas de règlement. Pour les zones bleu foncé, c'est vraiment le stationnement limité à 2 heures. C'est principalement dans les secteurs commerciaux, de façon à avoir de la rotation pour faire fonctionner les commerces. Et là, il n'y a pas de vignette. Qu'on n'ait pas une occupation de voitures ventouses. C'est bien limité à 2 heures pour tout le monde, y compris pour les riverains de la rue. On est en train de travailler pour avoir aussi une nouvelle fourrière complémentaire à la première, de façon à ce qu'on libère aussi des places de parking et les voitures ventouses qu'on n'arrive pas à évacuer aujourd'hui.
La police municipale veillera à l'application des bonnes pratiques avec une sanction possible d'un PV à 35 € applicable après un temps de familiarisation au début d'année 2024. La municipalité mise donc sur l'esprit de mobilité. Bernard Noirot.
Cette politique, c'est de tendre vers les déplacements doux, hein, c'est-à-dire le vélo, le piéton, et de lui redonner justement plus de place. Et vous allez voir après la suite à venir, c'est-à-dire les pistes cyclables qui vont accompagner tous ces changements de mode de déplacement. Sur les pistes cyclables, on est toujours, bien sûr, aujourd'hui encore dans l'enfouissement des réseaux, mais les travaux de vrai aménagement des pistes cyclables devraient commencer vers le mois de novembre.
Pour une livraison au printemps 2024, pendant ce temps, les Toircais devront s'adapter au respect des zones 30 km/h, mais aussi ces zones de rencontre de piétons, vélos et voitures limitée à 20 km/h. Ça risque de frotter dans les premiers temps. Dans toutes ces mobilités, une seule chose ne bouge pas, c'est la gratuité du stationnement. Le rendre payant aurait été coûteux à l'usage, une dépense jugée parfaitement inutile par l'équipe de Bernard Pénaud alors qu'elle cherche à pacifier l'espace public. Reportage signé Dominique Hérault.
Mercredi 21 juin, Patrice, c'est la fête de la musique aujourd'hui.
Elle a débuté en milieu d'après-midi à Cerisay, place des Halles, et se poursuivra jusqu'à 22h avec à 20h tout à l'heure le groupe Oxolive sur scène. Les rues du centre-ville de Mauléon seront animées par une vingtaine de groupes. La scène professionnelle est installée place de l'hôtel de ville avec 3 groupes, Macadam, Hirsute, Les Kangourous et À toute trèfle. À Bressuire, une trentaine de formations de groupes d'artistes se produiront dans les rues et sur les places du centre-ville. On a recensé une 15aine de lieux aménagés pour que les artistes puissent s'exprimer librement à partir de 18h30, 19h tout à l'heure. À Thouars, 7 points d'ancrage à partir de 19h et ce jusqu'à minuit pour cette fête de la musique. Seront animés le square Franklin Roosevelt, les rues Porte de Paris, la rue et la place Saint-Médard, la place et la chapelle Jeanne d'Arc, la place et l'église Saint-Médard et le musée Henri Barré. À Niort, actuellement et jusqu'à minuit, les rues du centre-ville situées entre la Brèche et la Sèvre vont s'animer par le biais de nombreux musiciens et autres chanteurs.
On reste à Niort, Patrice, avec la programmation des jeudis Niortais connus.
Le service culture de la mairie proposera 6 dates pour enflammer la pelouse du Moulin du Roc chaque soir à partir de 21h du jeudi 13 juillet et ce jusqu'au 17 août. Une nouvelle fois, entre 3 et 4 000 spectateurs sont attendus pour des soirées au style très différent. Le coup d'envoi de cette édition 2023, le 13 juillet, sera donné par une soirée pop assurée sur scène par Naya, une artiste bordelaise révélée par son premier album Ruby, sorti en 2018. Depuis, elle écume les grands festivals, que ce soit en France comme à l'étranger. Marie-Flore assurera la deuxième partie de cette soirée du 13 juillet.
L'actualité sportive et cette question ce soir, Philippe Hinsberger sera-t-il le prochain entraîneur des Chamois Niortais?
Son nom circule en tout cas depuis plusieurs jours. Philippe Hinsberger, ce n'est pas rien pour les Chamois puisque le coach a déjà fait 2 passages remarqués par le club entre 2001 et 2004, puis entre 2005 et 2007. Son retour présenterait pas mal d'avantages, c'est certain, mais il interroge aussi alors que le chantier est immense. À 64 ans, celui qui veut poser ses valises dans la région se dit néanmoins clairement intéressé.
Je suis en fin de contrat avec Amiens. Je suis sur la région, vous le savez, hein, j'habite dans le coin, donc il est évident que bientôt, à 64 ans, ben, je ressens aussi le besoin de me poser près de chez moi. Donc du coup, il y a un intérêt commun, effectivement. Donc on a déjà discuté, mais aujourd'hui, rien n'est fait.
C'est un vrai chantier hein, qui s'ouvre à Niort. Ça vous fait pas peur, Philippe ?
Vous savez, des chantiers dans le foot, aujourd'hui, c'est partout. C'est partout. Je suis arrivé à Amiens il y a 2 ans, c'était un chantier. Il y avait 37 joueurs sous contrat. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui partout. Après, je ne cache pas que pour un club de national, moi, mon objectif et mon ambition aujourd'hui, c'est pas forcément, c'est soit d'arrêter, soit c'est pas forcément d'entraîner en national. Mais ça ne serait pas le club des Chamois. J'y donnerais pas d'intérêt, je pense. Mais bon, voilà, vous savez que c'est un club que j'ai entraîné aussi pendant 5 ans. Niort, pour moi, les Chamois, c'est un peu ancré quelque part. Mes enfants sont sur Niort et Poitiers. Bon, c'est, je dirais que viscéralement, il y a quelque chose entre les Chamois Niortais et moi. Donc, c'est pour ça que j'y jette un œil bienveillant.
Philippe Insberger, aux manettes sportives des Chamois. L'élément déclencheur pourrait être la décision de la DNCG qui doit statuer sur le cas jamais simple d'un club qui passe de Ligue 2 à National. Le club l'a bien changé depuis 2007, mais cela n'effraie aucunement le coach expérimenté qu'il est.
Vous savez, c'est l'évolution aujourd'hui. Les Chamois Niortais ont évolué aussi avec des gens qui ont repris le club. Jacques Prévost qui n'est plus président comme je l'ai connu, ni Joël Coué avec qui je reste quand même beaucoup en contact, mais alors le club a changé, oui bien sûr, dans ses structures non hein, c'est toujours le même que j'ai connu, mais bon voilà, on connaît aussi le problème de Niort avec les Chamois, c'est pas d'aujourd'hui, les difficultés existaient déjà, mais moi tout ça je m'en fous un petit peu, je sais qu'une descente c'est très compliqué à gérer, voilà, regardez Nancy aujourd'hui qui est descendu, qui se retrouve en National 2, regardez des Dijon qui descend, enfin c'est des choses qui font peur. Donc c'est un chantier comme vous l'avez dit. Il y a du boulot et je pense que aussi prendre quelqu'un d'un petit peu calme et d'expérience, ça peut être une bonne chose pour le club.
Philippe Insberger au Chamois, eh bien on en saura sans doute un peu plus dans les prochains jours. Reportage signé Fabien Gazot. Cholet Basket de son côté continue son recrutement. Gérald Ayaï, 22 ans, 1m88, vient de signer pour une saison avec CB, passé par les JS à Bordeaux en 2018-2019. Cet arrière meneur rejoint l'Élan Béarnais la saison suivante où il jouera principalement avec l'équipe Espoir. En 2020-2021, il intègre l'équipe pro coachée par un certain Laurent Villa. Et la saison suivante, toujours avec son équipe de Paula Cortez, il remporte la Coupe de France. Thomas Lavaux, régulièrement appelé en équipe de France, ne figure pas dans la liste des 42 noms dévoilés ce matin par Fabien Galthié pour la Coupe du Monde de rugby. Le Toircé d'origine, auteur d'une saison pleine avec le Stade Rochelet, peut tout quand même garder un petit espoir car la liste des 33 joueurs peut encore évoluer d'ici le 21 août.
Un double challenge relevé pour défier le handicap.
19 sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres se mobilisent pour Cap 2024 sans peur du handicap. En septembre prochain, ils et elles accompagneront 5 sportifs handisports dans 2 défis successifs qui font référence aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le premier défi cycliste consiste à relier Partenay à Aoste en Italie, soit un parcours de 1012 km à réaliser en moins de 50 heures en relais avec un dénivelé conséquent puisqu'il faut traverser le massif central et les Alpes. Il s'agira ensuite de gravir un sommet, la pointe Jordanie, 4046 mètres depuis Staffal dans les Alpes italiennes avec un dénivelé de plus de 1000 mètres. Les 5 adultes handisports présentent tous des handicaps différents puisque Marc Malter est aveugle, Mawila Nafion est sourd et muet, Sébastien Bichon et Ludovic Pesquet sont eux amputés tibiales et le Benjamin Maxime André est handicapé à un bras. Ils seront donc bien entourés par des sapeurs-pompiers très sportifs à l'image de Fred Ouvrard à l'initiative de ce projet, admiratif devant ses coéquipiers.
C'est l'objectif, hein, c'est le dépassement de soi, c'est de promouvoir le handisport et puis de se dire que ben, malgré le handicap, que tout est possible. Il y en a certains parmi eux qui ont un très très haut niveau sportif, donc c'est peut-être même plutôt eux qui vont nous tirer parfois sur l'ascension, aussi bien en vélo que sur l'ascension de la pointe Jordanie. Hein. On fait vraiment des très très belles rencontres, donc on a appris à connaître nos 5 handisports. On a fait également d'autres rencontres, on a récemment rencontré Arthur Baucher à Secondigny. Ces gens-là ont vraiment une détermination incroyable et en fait ressortent même grandis de leur handicap. Quoi. Ils ont réussi à relever la tête. C'est une très très belle leçon d'humilité et de courage. On voulait vraiment être en lien, en corrélation avec les Jeux Paralympiques 2024, donc d'où le nom. Là, si on fait le calcul, 1012 plus 1012, voilà, on a fait exprès de passer à distance pour arriver à 2024.
Tous les sportifs participants sont très motivés, d'autant que leur engagement permet de récolter des dons pour financer du matériel pour des jeunes handicapés.
Le partenariat, donc aussi bien avec les partenaires privés, associatifs et particuliers, fonctionne très 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 bien, vraiment au-delà de nos espérances, c'est vraiment incroyable. Et du coup, grâce à la générosité de tout le monde, on va donc pouvoir aider à financer donc un vélo tricycle adapté à Elsa, donc qui est une jeune fille de 17 ans atteinte d'une maladie neurologique au niveau des membres, qui est du côté de Marigny, donc à côté de Beauvoir-sur-Niort. Donc on va pouvoir donc lui offrir ce vélo. On va également pouvoir via le comité handisport des Deux-Sèvres donc aider à financer 3 fauteuils, donc pour les Flèches Bleues de Parthenay, notamment pour Malone, un adolescent de 14 ans qui est atteint d'une maladie de type myopathie.
Le comité handisport recevra aussi des fonds, ainsi que 3 associations de Sèvriennes qui œuvrent pour les autistes. Les particuliers peuvent encore se mobiliser pour soutenir ce projet via Hello Asso. Cap 2024, sans peur du handicap, un beau défi mariné par Marie-Amélie Le Fur en personne, présidente du comité paralympique et sportif français, dont la présence est espérée pour le départ le 10 septembre prochain de Parthenay.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Mercredi 21 juin, c'est officiellement l'été aujourd'hui.
Et le risque orageux prévu seulement sur l'extrême sud-est des Deux-Sèvres en soirée pourrait en fait gagner une bonne partie de notre département, peut-être de fortes averses par endroits. On espère bien entendu être tranquille, hein, histoire de bien profiter de cette fête de la musique ce soir. Peut-être un peu de pluie pour demain en matinée, s'en suivra un ciel partagé entre soleil et nuages et un temps sec pour l'après-midi. Les températures demain, 15 à 17 degrés au lever du jour, 26-27 pour les maximales.
Merci Patrice pour toute l'info auprès de chez vous, édition du soir, retour demain matin.
À 7h avec Fabien Gazot, très belle soirée avec Colline, je vous retrouve demain à 18h.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.